Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique sacrée, bienvenue sur Point d'Orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Mais avant de vous parler de toute la musique qui va nous rassembler, je voulais vous souhaiter une très belle, très heureuse et très sainte année 2025. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin et de début d'année aussi, dans la joie, dans l'amitié, dans la famille et également dans la musique. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous accompagner en ce début d'année, parce que vous vous doutez bien qu'avec l'actualité liturgique, il y a des choses à dire, notamment avec la fin du temps de Noël qui est marquée par la grande fête de l'Épiphanie. Et là, vous vous doutez bien qu'avec une occasion pareille, les musiciens s'en sont donnés à cœur joie. Et par conséquent, moi aussi, c'est pour ça que je vais vous faire entendre non pas trois morceaux comme d'habitude, mais cette fois-ci plutôt quatre. Donc, sans traîner, nous allons entendre aujourd'hui ces quatre morceaux. Et on va commencer par le commencement, une fois n'est pas coutume, par l'orgue et un prélude sur l'introïde de l'Épiphanie de Maurice Duruflet. Alors pourquoi est-ce que je commence par là? Tout simplement parce que j'avais envie de vous faire entendre de la musique du XXe siècle. Alors on sera entre la France et l'Angleterre, vous allez entendre, mais tout est regroupé dans le XXe siècle pour cette émission-ci. Un petit peu d'actualité, si j'ose dire, ne nous fera pas de mal. Et alors, ce prélude sur l'introïde de l'Épiphanie de Duruflet, vous savez que c'est un organiste que j'apprécie tout particulièrement. Il a ce génie incroyable pour faire chanter à l'orgue le grégorien. C'est bien entendu le thème qui est ici choisi, le thème de l'introïde de l'Épiphanie. Donc vous allez entendre en filigrane le grégorien, presque le chœur grégorien, qui est là chanté par les tuyaux de l'orgue et qui est sublimé par les harmonisations superbes de Maurice Duruflet, qui n'avait pas son pareil pour harmoniser, vous savez, ce type de chant qui est très difficile à harmoniser. Je peux en parler en tant qu'organiste. Vous savez que c'est un long serpent de mer pour tous les organistes de savoir accompagner correctement le grégorien. Et ben lui, il paraît que c'était absolument extraordinaire quand il se mettait au clavier. Et bien entendu, lorsqu'il pouvait rédiger, écrire et composer cette œuvre-là, et les graver dans le marbre pour la postérité, c'est là où on peut mesurer tout son génie, de voir le grégorien prendre une nouvelle forme et vivre de façon différente. Voici donc, sans plus attendre, le prélude sur l'introïde de l'Épiphanie. Ici, c'est Olivier Latry qui joue aux grandes orgues de Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Et je trouve dans cet extrait une musique tout à fait classique dont le compositeur ici nous fait la surprise. Il est vrai que quand on parle de grégorien réharmonisé par le compositeur, et forcément souvent il y a des choses presque plus audacieuses, et là on est confronté presque à un certain type de sagesse de chez Duruflet qui est un peu désarçonnant, que l'on peut entendre, mais c'est toujours fait avec une grande pudeur dans l'écriture, je dirais, parce qu'ici c'est vraiment le chant, le cantus firmus, le grégorien qui est mis en avant et qui est bien entendu si admirablement mené, non seulement dans l'écriture mais également bien sûr dans l'interprétation. Voici donc ce qui permet de planter le véritable décor de cette épiphanie, ce prélude sur l'introïde. Vous savez que c'est le début donc de la messe, et là comme si l'orgue voulait nous installer dans une atmosphère sonore qui est en fait l'atmosphère de la messe grégorienne. Vous n'êtes pas sans savoir que Maurice Duruflé était assez mécontent des réformes musicales post-Vatican II. Il considérait qu'on faisait beaucoup de mal en supprimant du grégorien, et alors lui, c'était un petit peu sa manière de résister. Il remettait le grégorien au goût du jour avec ses harmonisations, afin de ne pas laisser tomber ce répertoire qu'il trouvait extraordinaire, et à juste titre, naturellement. Voilà donc pour ce premier extrait musical que je voulais partager avec vous. Et maintenant, on va rester en France, toujours dans le XXe siècle, comme je vous l'avais dit, avec là aussi un des grands compositeurs que j'affectionne tout particulièrement, à l'histoire ô combien touchante, il s'agit de Francis Poulenc. Pourquoi est-ce que j'aime Poulenc? Parce qu'il est converti. Alors il a été bien entendu biberonné à la messe dans sa jeunesse, comme de nombreuses personnes, mais en fait il est revenu à la foi sur le tard après la mort d'un de ses amis, et c'est pas très loin du sud de la France, à Rocamadour en fait, qu'il a retrouvé une forme de dévotion, notamment envers la Vierge Noire de Rocamadour, et c'est à partir de là qu'il a commencé une véritable conversion. Et il s'est mis à écrire beaucoup de musique sacrée pour le plus grand bonheur des interprètes, parce que Francis Poulenc fait également partie des plus grands compositeurs de musique profane, des plus grands musiciens d'ailleurs de toute l'histoire de la musique française. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Et il a composé plusieurs motets, notamment pour les temps de Noël. Ils sont donc au nombre de 4. Le premier, c'est le Omanium Mysterium. Le deuxième, le Quem Vidistis Pastores. Le troisième, celui qui nous intéresse, Vindentes Stellam. Et enfin, le dernier, Odie Christus Natus Est. Alors pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur le troisième, Videntes Telam? Tout simplement pour la double lecture qui en est faite, parce que quand on voit l'étoile, eh bien on pense au berger dans la nuit étoilée, mais bien entendu à la fête qui nous intéresse, c'est-à-dire l'épiphanie. Voici une traduction du texte qui va être mise en musique. Voyant l'étoile, les mages se réjouirent d'une grande joie, et entrant dans la maison, ils offrirent au Seigneur l'or, l'encens et la myrrhe. Un beau programme, de beaux cadeaux naturellement, ainsi que le répète le psalmiste dans son psaume 71. Il y a là matière à offrir, bien entendu, puisqu'il s'agit de la naissance du Christ et du départ des mages. Et dans cette musique-là, que je trouve assez fantastique, il y a une forme d'attentisme. En fait, je trouve que là, Francis Poulenc, alors c'est mon interprétation, il est plutôt basé sur vraiment les mages qui contemplent l'étoile. Il y a quelque chose de très dépossédé, très calme, vous allez l'entendre dans cette musique, d'ailleurs qui est assez aiguë, où d'ordinaire, Poulenc, vous savez, il dilate beaucoup la musique, c'est-à-dire qu'il rassemble avec des accords, ses fins de phrases avec des accords assez rassurants, presque parfois palestriniens, c'est presque choquant, et après il distord un petit peu la musique avec son harmonisation si spéciale et parfois spectaculaire. Ici, non, il fait preuve aussi d'une forme de sagesse, alors bien entendu, on entend bien les traits poulenciens, si j'ose dire, mais toujours rassurant, toujours dans un registre plutôt aigu, un petit peu de médium, mais quelque chose de très rassurant, de très calme, comme si on était dans la contemplation. Ce qui rejoint d'ailleurs l'idée parfois de ces rois astronomes qui contemplent les astres et qui se mettent en route. Et alors là, il y a cette espèce de dimension de calme que je voulais partager avec vous, parce que vous allez voir en deuxième partie d'émission, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus festif. Mais je voulais partager avec vous ce motet ô combien merveilleux de Francis Poulenc, qui fait donc partie de ce corpus de 4 motets que je vous invite à découvrir. Ils sont tous extrêmement beaux, en particulier pour moi le Omanium Mysterium, qui est d'une grande beauté là aussi, avec tous ces mystères cachés et qui se résolvent dans la fin triomphante des Alléluia. D'autres que lui en ont composé de très beaux, je vous en avais fait quelques petits aperçus avant Noël. Mais là, nous avons cette espèce de douce satisfaction de lumière nocturne et en même temps ô combien apaisante, qui font que les mages se sont mis en marche en confiance. Et en fait, c'est tout ce qui ressort de cette musique-là, je trouve. La confiance, l'abandon, le calme et la sérénité. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, naturellement. Vous savez que vous pouvez réagir sur le podcast de cette émission si vous le réentendez en replay. Moi, je vous laisse avec cette merveilleuse musique de Francis Poulenc, Videntes Stellam, ici interprétée par The Cambridge Singers sous la direction de John Rutter.
Thank you.
Comme toujours avec Francis Poulenc, nous sommes rassurés par ces accords finaux. C'est bien ce que je vous disais, la musique et l'harmonie parfois distordues, au sens presque parfois du supplice de l'oreille qui se demande quand est-ce que tel accord va se résoudre. Et à chaque fois, nous sommes immensément rassurés. C'est tout le sens de la musique de Poulenc qui fait beaucoup ça, notamment dans ses chants consacrés à la Vierge, notamment en raison de la conversion qu'il a eue, et également du rapport avec sa maman. Mais ici, je trouve qu'on a cette espèce de douceur presque maternelle, comme si l'étoile avait un rôle rassurant, maternel, presque de berceuse qui venait nous rassurer et rassurer les mages avant qu'ils puissent se mettre en route pour le long périple jusqu'à venir adorer et offrir les cadeaux au Christ. Voilà donc pour ce motet et pour la partie française de cette émission, puisque je vous ai dit que nous allions avoir deux parties. La partie française donc vient de s'achever et nous allons traverser la Manche pour aller en Angleterre. Là aussi, comme je vous l'avais dit avant Noël, il y a une grande tradition chorale, notamment dans les temps de Noël, et c'est bien entendu vers la perfide Albion et ses chœurs que nous nous tournons désormais. Également pour faire un petit peu cocorico, je vois pas pourquoi je vous ferai un petit point historique sur ça. Il faut savoir que l'église avait été malmenée en Angleterre, notamment sous Cromwell, et il faut savoir que l'église a cherché là où étaient les meilleurs chanteurs et où était la meilleure tradition chorale, et figurez-vous que c'est en France qu'ils sont allés récupérer les meilleurs chanteurs et la meilleure tradition vocale. Aujourd'hui, hélas, les choses se sont un petit peu inversées, mais on peut se dire avec un petit peu de fierté que si aujourd'hui la tradition chorale persiste en Angleterre, c'est aussi un petit peu grâce à la France. Voilà, je vous donne cette petite information parce qu'il est vrai que de temps en temps, les Anglais font un peu la gorge chaude de leur cœur. A raison, il faut bien dire que sur cela, ils ont une petite longueur d'avance sur nous. Mais bon, après tout, il est bon aussi de rappeler que la France a aussi son mot à jouer, et notamment dans le répertoire, comme nous l'avons vu. Ici donc, on va passer dans un registre totalement différent, vous allez l'entendre, avec un texte Personnent Odie, dont voici la traduction. « Laisse résonner aujourd'hui la voix des enfants, louant joyeusement celui qui nous est né, donné par le Dieu très haut, est conçu dans un sein virginal. » Naturellement, il s'agit d'un chant de Noël pur. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire écouter ce chant? Parce que là aussi, l'instrumentation est assez particulière, vous allez vite vous en rendre compte, et elle fait une très riche transition entre le morceau que nous venons d'écouter, puisque le Poulenc était interprété par les Cambridge Singers de John Rutter, et ici, il s'agit d'un arrangement de John Rutter. C'est lui-même d'ailleurs qui a composé donc ce thème et tout cet arrangement, et il l'a fait de façon, je pense, en pensant à l'épiphanie. Pourquoi? Vous allez l'entendre assez rapidement dans son instrumentation ainsi que dans les accords qu'il choisit de faire. Si vous êtes familier avec la musique de John Rutter, il est très britannique, hein. Ce sont vraiment, c'est une façon de composer qui est tout à fait particulière et tout à fait noble, etc. Et là, il y a quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, des choses beaucoup plus orientalisantes. Et c'est là où je pense que la transition va se faire avec le dernier morceau que je vous ferai entendre après. Je trouve que là est annoncée la naissance du Christ, certes, mais l'écho est tel qu'il est un petit peu étranger aussi, notamment par son instrumentation, vous allez l'entendre très très vite. Alors ici, il s'agit d'un chant particulièrement festif, vous allez l'entendre très vite, par une instrumentation relativement relevée, même si ça reste une instrumentation d'église, mais vous allez l'entendre, quelque chose de totalement festif pour fêter, pour célébrer cette venue au monde de Jésus. Voici donc le Personnent Odie, c'est un arrangement de John Rutter, toujours avec ses Cambridge Singers, et l'orchestre qui l'accompagne, c'est le City of London Symphonia.
Thank you.
Voilà pour ce Persönliche Odier de John Rutter, vous pouvez l'entendre, une espèce de croisée entre le folklorisme peut-être irlandais et puis les rythmes orientalisants avec des artifices musicaux aussi simples mais efficaces que les parallélismes, l'instrumentation très festive, le tambourin, presque une forme de hautbois qui donne presque à jouer du fifre et de cette joie, et en même temps ce rythme de marche, comme si effectivement on devait se diriger vers la crèche pour adorer le Seigneur comme les rois mages. C'est particulièrement réussi dans ce morceau de John Rutter, et il y a tous les ingrédients. C'est cela que je trouve extraordinaire dans ce morceau, c'est qu'on a le côté britannique avec notamment les Noëls. Je vous en avais parlé des carols, notamment de Britain, avec la harpe et les chanteurs. Donc là vous avez la harpe qui joue peut-être le rôle un petit peu plus celtique, avec des références au folklore, le côté orientalisant, le côté plus folklorique, comme si toute la campagne se mettaient d'accord pour aller venir louer le Seigneur, et de Bethléem jusqu'en Angleterre, jusqu'en Orient, etc. C'est quelque chose qui est particulièrement réussi dans la façon de composer de John Rutter. Et on va rester avec John Rutter, qui va conduire cette fois-ci toujours les mêmes, hein, The Cambridge Singers, et on change d'orchestre toutefois, puisqu'il s'agit de Cambridge Singers Orchestra, donc toute la fine équipe, si j'ose dire, sur une composition de Hopkins, Three Kings of Orient. Donc le programme est vite dit, il s'agit tout simplement de l'histoire des rois mages qui se mettent en marche, et là vous allez entendre, le côté oriental est pleinement et entièrement assumé, il est ici totalement comme si on plantait le décor, il s'agit d'une fresque théâtrale presque. On reste dans le domaine bien sûr de la musique sacrée, et vous allez entendre avec tous les artifices possibles, les gammes qui changent, on n'est plus dans la musique parfaitement tonale que nous connaissons en France et également en Angleterre. Il s'agit de ce côté universel qui est mis en avant par la composition, et bien entendu qui donne tout ce sel à cette composition extraordinaire, beaucoup plus lyrique, beaucoup plus déposée presque, avec là aussi beaucoup de variations, vous allez entendre dans la musique, mais qui fait quelque chose de totalement unique et de parfaitement génial. Voici donc Three Kings of Orient, un arrangement de John Rutter sur la musique de John Hopkins, The Cambridge Singers et The Cambridge Orchestra.
Thank you.
extraordinaire morceau que ce Three Kings of Orient, l'arrangement de John Rutter qui est extraordinaire à plus d'un titre, vous l'entendez, la musique s'est transformée d'un début très oriental, presque inquiétant, en se disant qu'est-ce qui se passe au bout du monde, et bien entendu, on termine avec cet accord parfait de sol majeur, bien d'ici, bien de chez nous, bien réconfortant, avec cette flûte et ces derniers accords qui nous font rappeler que l'enfance est endormie face au présent que lui ont porté les rois mages du bout du monde. Un très beau morceau que je vous invite à réécouter sur le podcast de l'émission. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Vous avez été gâtés quand même, 4. Je vous souhaite encore une fois une très belle année, de très belles choses à venir pour 2025, je l'espère pour vous. Quant à moi, je peux vous retrouver en live tous les vendredis soirs à la Basilique Saint-Cernin pour le projet Cœur de Lumière. Il s'agit d'une illumination de la Basilique Saint-Cernin avec des tableaux qui représentent toute l'histoire de la basilique depuis sa fondation jusqu'à notre époque contemporaine. La Scola Cantorum sous ma direction, eh bien, s'illustre à 7 reprises pour de très belles choses qui vont du grégorien jusqu'à l'époque contemporaine. Donc si vous avez envie d'entendre la Scola pour de nouvelles expériences, eh bien, vous pouvez venir réserver vos places sur le site de Cœur de Lumière. D'ici là, je vous souhaite de très belles choses à venir et je vous dis à très bientôt sur Point d'Orgue. À bientôt, au revoir.